vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 147, Dominique Bézu, l'immobilier décousu. Chers amis, bonjour, mais quelle galère à Strasbourg. Cela peut pas être pire que de se perdre dans la cambrousse, parce que sur l'autoroute, on a suivi le panneau Strasbourg, GCO, péage, et au lieu de prendre la direction de Schittigheim pour arriver, en évitant la grosse arnaque, pour arriver directement à Strasbourg-Centre, eh bien, louer un appartement, ça peut être, c'est pareil. C'est la galère, les petites annonces, le copain du copain qui connaît quelqu'un, les panneaux sur les balcons, le bon coin. Et si en plus vous êtes chômeur, noir, handicapé, et que vous êtes en fait une femme seule avec trois enfants, bon courage, sans compter les deux chiens bergers allemands qui vont tout de suite rassurer le propriétaire pour sa belle moquette tout juste posée. Bon, eh bien, notre invité aujourd'hui, c'est Dominique Bézu, et sur sa carte de visite, c'est indiqué « consultant indépendant immobilier ». Alors, avec une photo et un grand sourire. Bonjour Dominique Bézu.
Bonjour Ambroise.
Alors, vous êtes agent immobilier. Alors, c'est un métier que l'on choisit par vocation ou bien parce qu'il y a des avantages cachés et une noblesse de service insoupçonnée. Quand vous aviez 5 ans, est-ce que vous vous êtes dit « je vais louer des maisons, je vais vendre des appartements ?»
Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je suis venu à l'immobilier sur le tard et c'est à la fois le fruit d'une histoire de vie, mais aussi du hasard, parce que je suis tombé sur un commercial tout à fait génial qui m'a fait rentrer dans une profession dans laquelle j'avais juré que je ne mettrais jamais les pieds.
Voilà. D'accord. Et alors, en même temps, bon, parce que j'ai un petit peu gratté votre histoire, vous avez donné des lettres de noblesse à l'immobilier. Donc vous n'êtes pas un requin ou quelqu'un qui arnaque les gens, vous faites ça bien.
Alors ça, c'est vraiment très très gentil comme appréciation, je vous laisse juge.
D'accord, mais quand même, comment vous faites pour qu'on ne vous déteste pas?
C'est une question piège.
Je ne vous fais pas de la pub, je ne donnerai pas du tout.
Alors, je ne sais pas si on ne me déteste pas en tant qu'agent immobilier, je ne crois pas, enfin, je n'ai pas eu l'occasion. Ça m'est arrivé une fois quand même, si, ça m'est arrivé une fois où j'ai eu des remontrances presque acidulées de la part de la maman d'un acquéreur. Je ne vais pas donner beaucoup plus de détails parce qu'entre-temps, elle est devenue conseillère municipale. Donc
oh là là.
On va garder ça. Et puis, ça remonte à il y a quelques années. Elle était folle de rage à cause des émoluments, à cause de ce qu'on appelle les frais d'agence. Voilà, la maman.
Oui, mais il y a les taxes là-dedans. C'est l'État qui se gratte, non?
Ouais, c'est un peu compliqué. C'est quelque chose que je ne peux pas raconter à mes clients. Je ne peux le raconter à personne. Je peux juste en parler aux gens qui ont, comme moi, un statut de libéral. Grosso modo, quand je facture 100 euros, et ça c'est un peu compliqué à comprendre, dans le meilleur des cas, je vais devoir payer des impôts sur le revenu sur ce qui va me rester en brut, et ce qui va me rester, ça va être en dessous de 20 euros. Donc ça, je ne peux pas le dire.
C'est un peu comme les notaires. Hein, qui vous font payer un gros truc et puis...
Non. Alors les notaires, c'est là aussi en matière d'immobilier, on dit les frais de notaire. En fait, c'est beaucoup d'impôts, très peu pour les notaires, de moins en moins pour les notaires, ouais. Pour des actes qui sont devenus beaucoup, beaucoup plus... pas compliqué, mais complexe. Donc moi, quand j'ai commencé un acte, c'était une vingtaine de pages à tout casser. Aujourd'hui, c'est plus de 400. Ah oui. Et le notaire maîtrise tout ça, il en a la responsabilité. Moi aussi, j'en ai la responsabilité.
Puis aujourd'hui, les gens, ils vous font un procès tout de suite quand il y a une virgule de travers.
Ouais, ça va beaucoup plus vite.
Oui. Voilà. Alors quand même, quelle est votre formation? Donc à 5 ans, vous vouliez être pompier ou pâtissier ou...
Ah oui, quand j'étais gamin, j'avais pâtissier, c'était un de mes rêves. Travailler en forêt, quelque chose comme l'ONF, c'était aussi un rêve.
La tarte au fromage.
Vous aimez ça?
J'adore.
Oui, oui. Vous avez une recette par hasard?
Pas du tout, j'en fais jamais de la tarte au fromage. Mais
bon, bah alors nous c'est un gag hein, dans notre émission, vous l'avez bien connu, sur Radio Judaïque à Strasbourg, mais on adore la tarte au fromage et on ne lui fait pas de la publicité, à la pâtisserie de la rue Gaillère. Elle est légère, elle a un petit goût de vanille, et elle est formidable.
Ah mais ça, voilà. Je suis ravi d'être venu, Ambroise, vraiment, de vous avoir croisé. Rue Gaillère, je m'en souviendrai.
Voilà, donc vous vouliez être pâtissier.
Ouais, gamin, ouais.
Oui.
Ouais, d'ailleurs, je suppose que c'était un peu en avance, parce que je rêvais de monter une ligne de produits avec le moins de sucre possible. Parce qu'à l'époque, il y avait Colérem, Place Kléber, avec toutes ces vieilles dames, avec leur chapeau.
Dont le fils a bien tourné, puisqu'il a travaillé comme secrétaire général à l'Élysée. Hein, Et alors, vous aussi, vous êtes un fils qui a bien tourné, parce que moi, j'ai connu votre papa, qui était un grand journaliste des dernières nouvelles d'Alsace. Mais
merci, c'est... Voilà. Merci, je suis sensible à l'appréciation.
Et qui, moi, tout jeune étudiant de l'école de journalisme, donc on faisait tout de suite des piges à FR3, ODN, il m'a pris sous son aile, il était sympa. Mais alors, comme ça, je vais faire des compliments. Il faisait une page qui s'appelait Lundi Jeune.
Oui,
je ne voulais pas en parler dans l'interview, puis ça vient tout seul comme ça. Et c'était formidable. Et puis, discrètement, sans me vexer, il réécrivait tout. Et mon papier était excellent. Et après, à l'école de journalisme, on me disait « Ah, on a lu ton papier dans l'EDN ». C'était bien, voilà. Non, mais à part ça, non, il était encourageant, il était bien, il était sympa, tout était bien, voilà. Donc, c'est toujours bien d'avoir des papas qui sont super sympas, et ça peut servir. Mais alors, au lieu de faire du journalisme et au lieu de faire pâtissier, vous avez fait quoi?
Oh là là, alors moi, j'ai un itinéraire je ne sais pas ce qu'il faut dire, haché ou varié, ou j'ai...
Alors, je vais vous aider, vous êtes engagé dans le social.
Oui, c'est vrai.
Et notamment, j'ai vu que vous aviez travaillé avec des enfants handicapés.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai.
Et donc, c'est un côté un peu généreux, ou alors vous avez un côté boy scout. Votre papa était très boy scout aussi. Hein. Il a écrit des livres, les signes de piste, voilà.
Alors, c'est vrai que un côté boy scout, je ne sais pas, mais... gamin, et ça je le dois à mes parents, ils nous avaient inscrits, mon frangin et moi, aux éclaireurs et éclaireuses de France, qui à l'époque était une troupe donc laïque, hein, dirigée par Henri et Gisèle Buridan. Qui étaient des instits, enfin on disait instits, qui étaient des instits à la Méno, et il y avait cette troupe, j'ai passé quelques années, donc ça avait lieu toute l'année, il y avait des week-ends, on partait dans les Vosges, des choses comme ça, tous les 15 jours, on se retrouvait tous les samedis, et puis une fois par an, on faisait le grand camp d'été qui durait 3 semaines. Et ça a été vraiment, pour moi, quelque chose que j'évoque encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, parce que ça a été vraiment une école de vie, une école aux relations, une école de... un apprentissage, un rapport à la nature, un rapport au monde. Enfin bref, j'ai gardé quelque chose, ça c'est sûr, de cette époque-là.
Oui.
Et peut-être... alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose?
Alors,
c'est vrai que je me suis beaucoup engagé.
Vous avez été éducateur?
Vous avez fait une formation
d'éducateur?
Pas du tout. Je suis rentré par la petite porte. Je suis rentré par la petite porte et j'ai été éducateur dans quelques institutions à Strasbourg. J'ai pas non plus, ça n'a pas été l'essentiel de ma vie professionnelle, mais oui, j'ai travaillé au centre de post-cure pour toxicomanes à la Robertsau. J'ai travaillé dans un établissement fermé à Ilkirch, qui était la porte juste avant la prison ou juste après la prison pour des gamins, entre guillemets, entre 16 et 22 ans. Et puis, j'ai longtemps travaillé aussi dans quelque chose qui s'approche, mais qui en même temps est complètement différent. C'est la formation professionnelle continue, puisque j'étais formateur dans un organisme de formation strasbourgeois qui s'appelle Réforme. Et que parmi les marchés que décrochait cet organisme, il y avait des stages de formation qui permettaient d'accéder à un certain nombre de savoirs et surtout d'accéder à des fonctions d'entreprise. Et ces stages étaient à l'époque financés par l'État en direction de publics très précaire. Défavorisés et précaires. Voilà. Oui. Et parmi ces publics précaires, il y avait des jeunes de 16 à 25 ans. Ça s'appelait le... C'était le... Enfin, il y avait différents dispositifs, le crédit formation individualisé, enfin bon, beaucoup de choses. Mais ces jeunes de 16 à 25 ans, des wesh-wesh de banlieue, qui sortaient de l'école rien dans les mains, rien dans les poches, en situation... d'échec ou en tout cas de non-intégration professionnelle. Et j'ai aussi... Alors, c'est en ça qu'il y avait un parallèle avec le boulot d'éducateur, parce qu'il y a cette relation très particulière et à des individus et à des groupes.
Voilà. Voilà. Alors ça, c'était il y a, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années.
Oui, à peu près, oui.
Moi, je me souviens d'une association qui s'appelle Envie, qui permet à des jeunes, justement, en difficulté, de se remettre au boulot, enfin, ou de se mettre au boulot, plutôt... Et notamment, ils réparent les machines à laver, les frigidaires et tout ça.
Ça existe toujours. Ils sont en grande difficulté en ce moment, eux, en tant qu'association, parce que, comme beaucoup de structures dans le social, il y a de vrais soucis de financement et de vrais soucis de viabilité. Mais ils font partie du paysage de l'insertion professionnelle en vie, comme d'autres. Mmh. Les jardins de la Montagne Verte, enfin, il y a toute une série de les régies de quartier, etc. Donc, le principe général, c'est de permettre une insertion professionnelle. Après, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est la meilleure des choses? On peut en discuter très longtemps. Ça devrait faire l'objet d'une approche approfondie.
Mais il y a quand même des sociologues, et puis il y a les juges, il y a plein de gens qui se penchent là-dessus.
Enfin, oui, absolument.
La société ne laisse pas vraiment tomber. Alors peut-être simplement pour se protéger, et non pas par charité chrétienne, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et puis, alors là, c'est mon côté boy scout à moi, je me dis que même si ça marche pour 1 sur 10... Il faut le faire.
Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce à quoi je faisais allusion, c'est... Moi, j'étais un opérateur de ces dispositifs pendant quelques années. J'ai vraiment été le gars qui est à la base, qui serre les boulons, qui... ce sont des dispositifs qui ont beaucoup de mérite, mais qui peuvent aussi présenter des dérives ou des difficultés, ou en tout cas des questions de fond qui mériteraient d'être peut-être approfondies, en particulier dans le rapport à l'entreprise privée et à l'entrepreneuriat. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus.
Alors peut-être que c'est tout à fait au départ qu'il y a un problème, c'est-à-dire déjà l'éducation des parents. Et ensuite, si ça ne marche pas à l'école, c'est parce que ça ne marche pas à la maison. Parce qu'à la maison, on passe son temps à regarder des bêtises à la télé et non pas des choses intelligentes.
Il y a plein de choses, bien sûr.
Il y a des analyses, il y a des...
Il y a plein de facteurs qui interviennent dans un itinéraire professionnel, évidemment. Évidemment, il y en a plein. Moi, à un moment donné, j'étais une roue d'un des très, très nombreux dispositifs, une roue d'un dispositif après l'école, quand tout a raté. Voilà.
Alors, donc, un jour, il y a eu peut-être une déception pour pouvoir changer, pour d'un coup se retrouver comme un sympathique.
Non, pas du tout. J'étais
Dominique Bézu.
J'étais un vieux de la vieille dans ces dispositifs. J'avais une spécialisation en plus, une spécialité. J'étais très pointu sur tout ce qui était loi, règlement, interprétation des dispositifs légaux qui régissaient cette activité. Donc je pourrais vous raconter plein d'anecdotes. Si vous voulez, j'étais un interlocuteur aussi des administrations, du CNASEA qui gérait les rémunérations des stagiaires, parce que ça me passionnait, cette partie du travail.
Ça veut
dire
qu'il y a beaucoup d'administrations, il y a beaucoup de bureaucratie, il y a 20 ans, c'était plus facile que maintenant.
Non, il y avait déjà beaucoup, et ça a été en se complexifiant au fur et à mesure.
Oui.
Il y avait déjà beaucoup, parce que l'idée, c'était quand même qu'une partie de ces stages étaient rémunérés, pas tous, mais certains étaient rémunérés, et ça, c'était une partie administrative pas évidente, parce qu'il fallait des questions de statut, des questions de montant, enfin bref, beaucoup de choses, et tout ça s'inscrivait dans un droit qui est le droit de la formation continue, que généralement on ne connaît pas beaucoup. C'est le livre 9 du Code du Travail. Moi, ça me passionnait, donc je me plongeais là-dedans. Je lisais les mises à jour tous les mois. Je les annotais pour l'ensemble de mes collègues. Et j'étais devenu le référent dans en matière de législation, de réglementation, en plus de mon boulot. Mais j'aimais ça. Et c'était un paysage assez complexe pour les usagers, parce que quand vous étiez... tout d'un coup vous vous retrouvez au chômage ou tout d'un coup votre boîte a des projets pour lesquels vous n'êtes pas, compétent ou tout à fait compétent, ou enfin vous avez des questions d'adaptabilité ou d'adaptation de vos savoir-faire et de vos compétences à un nouveau job ou autre chose, vous êtes confronté à ce droit-là, à ce livre neuf du Code du Travail. Comment je vais financer? Où est-ce que je peux m'adresser? Qu'est-ce que je peux faire comme formation? C'est-à-dire que ce que je faisais moi, qui avait une petite particularité peut-être plus sociale, ça s'inscrivait dans un champ plus vaste, accessible à tout le monde. Donc il fallait, moi je considérais qu'il fallait avoir une approche plus globale, voilà. C'est ce que j'avais.
Alors, bon, c'est passionnant. Disons que c'était il y a une vingtaine d'années.
Ouais, voilà. Ouais, à peu près.
Des gamins de 15-20 ans.
Oui, mais des adultes aussi, d'autres stages, des stages d'insertion, des stages d'alphabétisation.
20 ans plus tard, vous en croisez un dans la rue.
Oui.
Et donc, il est devenu un monsieur respectable, il a son métier et tout.
Ça m'est arrivé.
Il est sorti de la muise, il est là, il fait Monsieur Bézu, vous vous souvenez de moi? Non, c'est pas comme ça.
Si, ça m'est arrivé un jour en sortant de la piscine à Chili que je monte dans un bus et le chauffeur me regarde et il dit Dominique Bézu, B-E-Z-U avec un accent aigu sur le E. Alors je dis oui, c'est moi. un ex stagiaire et c'était d'ailleurs c'était une rencontre assez émouvante parce que.
Et il vous dit alors voilà je suis sorti de prison.
Alors, il me dit pas qu'il est sorti de prison. Il me donne des nouvelles des anciens du stage, mais il me dit en quoi l'action de formation qu'on avait menée ensemble lui a permis un itinéraire qui l'a amené à conduire le bus dans lequel on est. Et ça fait toujours très plaisir.
Non mais la reconnaissance et c'est pas du narcissisme. C'est pas de la vanité, non, c'est simplement.
Non, j'ai passé l'âge.
Voilà. comme disait Enzo, que c'est la chanson Juste quelqu'un de bien. c'est la journée des compliments.
Oui.
Voilà. Donc, vous êtes quelqu'un de bien.
Oui.
Mais alors, donnez-nous des trucs. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on va voir un agent immobilier?
Oula, je vais me faire des amis dans la profession, moi. Alors, les choses ont profondément changé depuis la crise immobilière. Hein. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on est rentré dans la plus grave crise immobilière qu'on ait connue depuis 1998. On ne le sait
alors,
pas assez.
La crise, ça veut dire que les prix augmentent? Ou ça veut dire qu'il n'y a plus rien sur le marché et donc les prix augmentent?
Il s'est passé une chose. En fait, le marché, dans un premier temps, s'est complètement bloqué. Parce que les taux bancaires ont augmenté de façon très très importante.
Oui, les taux à 0%, c'est fini.
Oui, depuis un petit moment.
Oui, c'est ça.
Et le marché de la transaction immobilière s'est complètement bloquée. Elle a entraîné dans le sillage de ce blocage, il y a eu deux conséquences. C'est le marché de la locatif dont vous parliez en introduction tout à l'heure, cette dame qui cherche, qui trouve pas que c'est extra, complètement bloqué aussi parce que, enfin, une des raisons de ce blocage du locatif, c'est le blocage de la transaction. Une autre conséquence, c'est qu'il y a un changement de paradigme complet. Les techniques de vente sont plus du tout les mêmes, les clients sont plus du tout les mêmes. Enfin, les choses ont vraiment beaucoup, en 4-5 ans, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. C'est pas seulement l'usage des réseaux sociaux et les nouvelles modalités de diffusion des offres. C'est tout un marché qui a vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Donc, votre question, c'était sur les agents immobiliers. Il y a l'agent immobilier d'autrefois, dont je suis un représentant. Il y a l'agent immobilier d'autrefois qui a réussi à suivre ce blocage du marché et les évolutions que ça a entraîné. Il y a les agents immobiliers d'aujourd'hui. Il y a 36 sortes d'agents immobiliers. Et en plus, il y a 36 sortes d'agences immobilières. Alors, autrefois, c'était simple. Il n'y avait qu'un seul modèle. Ensuite, il y a eu l'apparition des réseaux d'agents mandataires dont je fais partie, moi, c'est-à-dire une autre organisation.
Comme des franchisés, un petit peu.
Oui, c'est ça. C'est comme des individus qui seraient franchisés. Voilà. C'est mon cas, par exemple. Moi, j'ai
Mais alors, est-ce que moi, en tant que client, entre guillemets, je viens de déménager, je veux louer quelque chose et tout, est-ce que la première chose à faire, c'est faire confiance?
Un agent immobilier, jamais, ne faites jamais confiance à un agent immobilier. Je vous le dis, je sais de quoi je parle.
Ah ben, dites donc.
Jamais.
Vous allez vous faire des amis, oui.
Oui, c'est fait.
Ah non, c'est pas comme ça, du genre, le truc, ça passe bien, il est sympa, alors peut-être que c'est une stratégie, mais non, non, il faut quand même toujours tout vérifier.
C'est une question compliquée. Si je vais dans un magasin de bricolage ou dans une concession automobile, évidemment, il y a l'aspect sympa, etc., qui va jouer. Après, il y a l'idée que je me fais moi-même de la compétence de mon interlocuteur. Donc, et vous, si vous faites appel à un agent immobilier, c'est pareil. Il y a l'idée que vous allez vous faire, et c'est vrai que le côté sympa...
Mais vous êtes pressé, c'est la galère, parce que vous avez l'autre boulot, le machin, le truc, vous venez d'arriver... Vous êtes trop content quand on vous propose quelque chose.
Bah,
vous
bien
dites, bon, c'est 200 euros de trop, mais je
mais
le fais quand
sûr,
même.
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors, il y a autre chose dont on parle, et ça mène l'opprobre sur les agents immobiliers.
Eh ben, c'est la fête au village aujourd'hui.
Non, 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 c'est la discrimination.
Oui. Hein,
les fameux tests et tout. Donc, est-ce que vous avez des gens qui vont louer leur appartement, qui vous disent, non, mais je veux pas de noir, je veux pas de machin, je veux de truc. Apparemment, d'après cette étude, ils sont décomplexés maintenant, les propriétaires, pour vous dire non, vous, hein, moi je veux quelqu'un de tout à fait solvable, sûr, dont avec deux revenus.
Alors ça existe.
Interdit par la loi.
Absolument. Absolument. Alors, je précise juste que moi, dans mon activité professionnelle, je ne fais pas de location, je ne fais que de la vente. J'ai beaucoup de copains à gauche, à droite, qui sont agents immobiliers, donc il y en a qui font de la location. Ce que vous dites est tout à fait juste, et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on le dit beaucoup plus facilement qu'autrefois. Voilà. Alors, il y a la question des revenus aussi, qui a eu un effet paradoxal. Hein. Vous avez des villes où le marché est locatif est compliqué, ou voire bloqué. La conséquence des exigences des propriétaires, c'est qu'il y a une production de faux qui a complètement explosé. Les gens fabriquent de faux bulletins de paye, fausses attestations. Mais bien sûr,
je vous mets au défi.
Et vous ne verrez strictement rien. Sauf si vous prenez la peine de téléphoner à l'employeur, etc., de vérifier les infos. Mais c'est assez dingue. Hein. On rentre dans des processus, c'est sans fond, sans limite. Donc, d'un côté, on exige des choses qui sont totalement déraisonnables, et de l'autre, on triche de mieux en mieux et de plus en plus, plus en plus loin, de plus en plus fort.
Grâce à Photoshop, Internet,
ouais,
et tout
voilà,
ça.
Voilà, voilà. Voilà. Donc, non. Du coup, vous devenez quelqu'un de très bien payé, très bien.
Votre copain vous prête une super bagnole neuve, vous garez devant l'agence et on se dit ce gars, il a du pognon.
Exactement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des demandes comme ça auprès des agences et des agents, et même pour la vente, ça c'est quand même extraordinaire. Monsieur Bézu, je voudrais que vous vendiez mon appartement. Évidemment, il vaut à peu près le prix du château de Versailles, enfin avec une légère décote. Par contre, je ne voudrais pas tel et tel type de profil comme acquéreur, parce que ça me dérange, ou parce que les voisins, ou parce que ci, ou parce que ça. C'est des choses qu'on entend beaucoup plus qu'autrefois, et qu'on entend.
Et alors, quelle est votre réaction? Excusez-moi, monsieur, vous n'êtes pas un client pour moi? Alors, vous l'envoyez balader ou vous l'engueulez en lui disant « Monsieur, c'est contre la loi, discrimination, c'est pas une opinion,
alors,
le racisme,
c'est
un délit. »
Est-ce que vous allez, vous, en tant que professionnel, mettre en œuvre cette discrimination ou pas? Premièrement, je suis pas un flic, deuxièmement, je suis pas un redresseur de tort, ni un curé, ni bon. Mmh. Donc, je vais pas m'opposer frontalement à quelqu'un qui dit ça. La première des questions, c'est est-ce que je vais le mettre en œuvre? Certainement pas, en ce qui me concerne, mais chacun va le prendre comme il peut le prendre. Ensuite, est-ce que je vais dire à mon client potentiel, ou parce que pour l'instant il n'a pas signé le mandat, monsieur, ce que vous me racontez, ça tombe sous le coup de la loi, et puis d'ailleurs je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui... Je ne vais certainement pas réagir comme ça, je vais accueillir avec une certaine distance ce qu'il me raconte, et puis on verra bien ce qui se passe au moment où... les choses vont pouvoir se faire et l'argent sera sur la table. C'est là que... il ne voulait pas de noir, je le vends à noir, le chèque est là.
J'ai un copain noir, si vous voulez, je vous le prête pour venir faire le cobaye.
Oui, voilà. Et j'aurais plaisir à faire ça. Et c'est là qu'on va pouvoir taper du poing sur la table.
Oui.
Ça ne sert à rien que je tape du poing sur la table au préalable, quand je ne suis pas en mesure de le faire.
Ça ne sert à rien de dire un imbécile qu'il est imbécile.
Exactement, voilà, j'allais dire ça. Pareil.
Voilà, voilà.
Un peu plus fleuri, peut-être.
Voilà. Eh bien, notre émission se termine avec des fleurs. Hein. C'était l'épisode numéro 147 de « Vous l'avez bien connu », Dominique Bézu, l'immobilier décousu. Alors, je dis décousu, c'était surtout pour la rime. Hein. Non, mais dites-moi, vous, Dominique Bézu, combien de fois avez-vous déménagé dans votre vie ?
Waouh !
Et est-ce que c'était chaque fois la galère ?
Alors, plus je vis, plus c'est la galère. La dernière fois, c'était il y a un an. J'ai pas mal déménagé. C'était toujours à Strasbourg, beaucoup de quartiers différents. La dernière fois, c'était il y a un an. Et alors, en plus, moi, je suis cancer, ascendant cancer, donc je déteste... Je déteste être coupé de mes racines, coupé de mon environnement. Il y a un peu plus d'un an, on a déménagé, ma compagne et moi, et ça a été vraiment une vraie galère, à la fois matérielle et à la fois
sentimentale.
Oui, parce que oui. Je suis très attaché. Bon, voilà.
Ah bah oui, oui. Quand on a refait les étagères, voilà. La bibliothèque repeint trois fois, partir. Oui, mais alors ouais. Pourquoi partir? Pourquoi est-ce qu'on déménage ?
Les enfants de cordonnier sont les plus mal chaussés. Et oui. il y a un an, à mon âge respectable, on a acheté tous les deux. Donc, c'est une belle histoire d'ailleurs, parce que pendant le Covid, on se promenait, ma femme et moi, tous les jours, en trichant bien sûr, puisqu'on avait droit à une heure.
Oui.
Et donc, on rajoutait une heure en cours de route.
Des heures de 120 minutes.
C'est ça, des heures de 120 minutes. Et je lui avais dit, on va marcher tous les jours et je vais te faire découvrir un Strasbourg que tu connais pas. C'est un Strasbourg de verdure, un Strasbourg de sentiers. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait. Un jour, on passe devant une maison, je lui dis, tiens, je la vends. Et elle me dit, achetons. Et voilà ce qui s'est passé.
Achetons.
On a acheté.
Bah, écoutez, c'est une belle histoire quand même.
C'est gentil.
Voilà, merci beaucoup.
Merci
donc,
Ambroise,
Dominique
merci beaucoup.
Bézu. Vous l'avez bien connu, une émission sur Radio Judaïca Strasbourg tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, nous allons manier la Kalachnikov en sirotant du whisky alsacien avec un Saint-Cyrien alsacien, écrivain Gérard Cardone. Vous l'avez bien connu à la technique, Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.